Alors, donc, Christian Pajot, on pourrait d'abord parler, puisque nous sommes de Villeréal, de la station d'épuration de Villeréal, qui a été construite en quelle année?
Alors, c'est une station qui a été construite dans les années 69.
Oui.
L'appel d'offres avait été lancé en 68 et les travaux donc se sont réalisés en 69 et elle a dû être opérationnelle courant 70.
D'accord. Est-ce qu'il y avait beaucoup de stations d'épuration à l'époque ou est-ce que c'était quelque chose d'un peu nouveau?
Au niveau du département, c'était assez nouveau. Je pense que Villeréal, dans ce domaine, a été un des précurseurs.
Oui. Auparavant, il n'y avait rien, donc tout allait directement dans le Drau.
C'était un rejet direct dans le Drau.
D'accord. Ça devait bien sûr poser des problèmes.
Ben, disons que ça posait des problèmes du fait de l'amener de tout ce qui est lessive et agents agressifs par rapport à la nature.
Voilà.
Puis c'était Claude peut-être Brouillet. Le début aussi de l'ère moderne, enfin pas les premiers débuts, mais enfin c'est la période où on commençait à envoyer pas mal de détergents dans la rivière, et ce qui a peut-être rendu le problème de plus en plus vif à régler, quoi.
Oui, on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Alors, comment elle fonctionne, celle de Villeréal? De quel type elle est? C'est un type assez classique. Je crois que nous présenterons les autres types par la suite, qui sont un peu aussi connus maintenant. Celle
oui.
de Villeréal, alors, essayons de faire comprendre à l'auditeur comment ça marche.
Bon, alors, c'est une station du type filtre bactérien. Bon, grosso modo, le principe de l'épuration propre... C'est un matériau qui retient l'eau et qui est très poreux, c'est la pouzzolane,
oui.
dans lequel se développe la fonction microbienne, et ce sont des microbes aérobies.
D'accord.
Qui digèrent les boues et qui les rendent neutres.
Alors des microbes qui fonctionnent au contact de l'air, s'ils sont aérobies.
Qui fonctionnent au contact de l'air.
Oui.
Pratiquement tous les systèmes de d'épuration sont basés avec par oxygénation, c'est-à-dire
D'accord.
avec l'air.
Oui.
Alors, dans le cadre de Villeréal, on a d'abord une station de relevage en tête pour amener les eaux et pour déjà faire un premier dégrillage. Ensuite, on a un décanteur primaire qui enlève à peu près 30% des boues et des matières en suspension.
Oui, et alors ça s'enlève par dépôt, ça se dépose.
Alors, ça s'enlève par dépôt et en tête, il y a une légère oxygénation par une toute petite turbine, mais qui
oui.
est très très limitée. Et ensuite, on a un grand bassin qui est rempli de ce matériau poreux, qui est la pouzzolane, et qui est aspergé régulièrement par le même tourniquet qu'un jardinier, qu'on
oui.
appelle un sprinkler en termes techniques.
D'accord.
Et cette eau qui descend est en contact de ces microbes. Il y a une fonction qui se fait, et ces microbes digèrent ces boues. Ces eaux qui sont toujours chargées de boues partent dans un décanteur secondaire, où là, il n'y a absolument aucun mouvement, ces boues tombent, et par un système de siphon, les eaux qui sont normalement épurées sont rejetées en milieu naturel.
D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée des surfaces à peu près du décanteur primaire, de cette partie où il y a la pouzzolane, à peu près, ça fait...
Alors, où il y a la pouzzolane, c'est à peu près, c'est un bassin de 4,50 m de diamètre, sur 5 mètres de haut à peu près.
D'accord.
Le décanteur secondaire, c'est un bassin de 5 mètres de diamètre avec une forme en tronc de cône pour que les boues se déposent au fond et pour qu'elles puissent être renvoyées en tête de station pour recycler plusieurs fois.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire
oui.
y a un recyclage des boues. Mmh. Et le décanteur primaire, c'est un bassin qui doit avoir aussi 4 mètres de hauteur, à peu près 5 mètres
d'accord,
de diamètre.
Oui, c'est moi qui ne connais pas du tout le problème. J'imaginais que c'était plus volumineux que ça. Ce n'est pas si volumineux.
Non, c'est pas trop
alors,
volumineux.
Alors, ces boues-là, bon, au bout d'un moment, alors, il faut s'en débarrasser, non?
Au bout d'un moment, c'est-à-dire quand on considère que les décanteurs sont suffisamment chargés en boue, on les évacue sur des lits de séchage, auquel cas, y a une épuration. Les eaux du lit de séchage reviennent en tête de station
d'accord.
et sont donc recyclées et retraitées. Et les boues de séchage, qui normalement sont des boues neutres, sont évacuées et quelquefois même dans certaines organisations ou des stations importantes, sont recyclées pour faire des terreaux.
D'accord, oui. Voilà. Bon, je crois que nous avons en ligne M. Jean, qui va nous parler, lui, d'un système qu'il connaît bien, du moins je le suppose et j'en suis sûr. Monsieur Jean.
Oui, bonjour.
Bonjour et merci d'être en ligne. Est-ce que vous avez entendu ce que vient de nous expliquer Christian Pajot?
Oui, très bien, et d'autant que je connais Monsieur Pajot.
Ah, Bien, mais c'est parfait. Alors, vous, le système, le procédé dont vous nous parlez, il existe depuis quand et ensuite, comment ça marche?
Le procédé que l'on développe à l'heure actuelle en France et qui est très connu en Amérique, en Australie, un peu partout en Europe et très développé à l'heure actuelle en Espagne, mais vous savez que toute l'innovation, elle a du mal à se mettre en place chez nous. Oui. Et c'est un procédé qui est le lagunage et filtration sur lit de tourbe. Alors, par rapport à la description qu'a fait à l'heure actuelle, pour avant moi, M. Pajot, nous avons, dans le cas, si je prends le cas de Villeréal, nous aurions toujours un poste de relevage parce que le pays est plat et les égouts sont profonds, donc il faut remonter les fluents. Et ensuite, et c'est là où on va commencer à diverger par rapport aux autres, si je suis à cette comparaison, on va faire passer ces eaux dans un tamis. C'est-à-dire, on va tamiser les eaux de façon à sortir de l'eau toutes les particules qui passent, si vous voulez, qui sont au-dessus de la maille de 500 microns.
Et pour c'est-à-dire un demi-millimètre.
Un trou d'un demi-millimètre. Hein.
Voilà.
Et pour situer le volume de refus journalier, si je prends une station de l'ordre de 1200 personnes, ça fait une brouette de 50 litres par jour. Hein. Oui. Alors, ce refus, c'est une partie quand même déjà importante de la pollution. Et c'est ce qui, dans les autres systèmes, produit des boues. Et nous, on ne va pas produire de boues dans notre système. On n'a aucune production de boues dans notre système.
Bien. Et ensuite, alors qu'est-ce qui se passe?
Ensuite, les eaux donc, qui ont été traitées de cette façon vont être dégraissées abondamment dans un dégraisseur, et on prend des dégraisseurs aérés avec un appareil qui souffle de l'oxygène de façon à faire des bulles de graisse et ramasser une émulsion de graisse au maximum. Hein. Ensuite, ces eaux vont s'en aller baigner, si je puis dire, dans une lagune. Alors la lagune, c'est un étang, un petit étang. Pour 1000 personnes, il faut compter 300 mètres carrés. Ça a un mètre de profondeur, c'est étanche, et on le rend étanche, ça a une forme rectangulaire ou carrée, ou quelle que soit la forme, parce qu'au point de vue paysagiste, on peut faire absolument s'intégrer et même faire des dessins assez harmonieux. Et dans cette lagune, on va avoir donc en fond des drains qui sont noyés dans un lit de gravier et de cailloux, et en dessus de ces drains, de ces lits de gravier et de cailloux, qui font une épaisseur de 30 cm, on va avoir 40 à 50 cm d'une certaine tourbe qui fait l'objet d'un procédé qui est breveté et dont je m'occupe de ce procédé. Et l'eau donc va, si vous voulez, baigner dans cet ensemble. Et là, il va y avoir, la tourbe étant un charbon actif, puisque c'est la première étape du charbon, vous avez une stérilisation de l'effluent, c'est-à-dire que les bactéries, les colonies bactériologiques vont être complètement détruites, donc on a un effet de stérilisation. Et ce procédé va être très employé en France dans les 5 à 6 années à venir pour stériliser les eaux qui sortent des stations d'épuration avant rejet dans les rivières. Car à l'heure actuelle, les eaux qui sortent des stations d'épuration ont un très faible abattement sur le plan bactériologique.
D'accord. Oui, donc à la limite, le procédé dont vous parlez pourrait être un complément de stations d'épuration actuelles.
Exactement. Ça va être un complément des stations actuelles qui sont, disons, sous-dimensionnées, en leur permettant de rattraper un dimensionnement compatible avec la charge qu'elles traitent,
oui.
Et en même temps faire ce qu'on appelle le traitement tertiaire. Parce qu'à l'heure actuelle, dans notre pays, je pense qu'on est quand même à la pointe, c'est une chose dont on va s'occuper et qui va être nécessaire de faire d'une façon habituelle, car on s'est aperçu que si on mesure la pollution des stations en dB ou en dCO, on ne s'était pas encore occupé de la bactériologie.
Bien, deux questions pour terminer, parce que notre émission est assez courte. Bon, l'évacuation donc, de l'eau se fait par des drains qui sont enterrés.
Oui.
Est-ce que ça ne pose pas, peut-être suivant le terrain, des problèmes? Et autre question, est-ce que ça coûte cher ou est-ce que c'est très bon marché, votre
Bien, disons que, si vous voulez, il y a une chose, la première chose qui est intéressante, c'est un investissement qui ne génère pas de frais par la suite. C'est-à-dire, il n'y a pas d'énergie électrique, hein. On fait la preuve que, sauf quand il y a un poste de relevage, il y a zéro énergie électrique. Et lorsqu'il y a besoin d'un peu d'énergie électrique, c'est de l'ordre de 150 watts, et on met des panneaux de photocellules voltaïques. Donc, pour une station de 1000 personnes, ça vous fait une économie de 70 000 francs d'électricité par an, par rapport au système traditionnel. Et ce n'est pas bruyant, il n'y a aucun bruit, il n'y a pas de nuisance olfactive. Donc ça apparaît surtout pour le milieu, les petites villes rurales, jusqu'à 5000 équivalents, comme un procédé qui va connaître un certain développement en France. Mais il y a quand même des contraintes foncières, parce que pour, disons, 1000 personnes, il faut disposer au moins de 700 à 800 mètres carrés de terrain quand même pour tout aménager.
D'accord, bien, mais monsieur Jean, je vous remercie. Et si ce procédé est intéressant, je suppose qu'il se diffusera dans les années à venir.
J'ai déjà des projets en Lot-et-Garonne. Hein.
Merci beaucoup.
Voilà, bonsoir monsieur.